apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barreau et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de Commerce et de Management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Chers amis de la colle, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat au féminin, reprise d'entreprise, inclusion, et ça va pas être le moindre des thèmes qu'on va aborder. Éventuellement, on parlera sport aussi, parce que voilà. Et tout ça avec Anna Jardin-Lévesque. Bonjour Anna.
Bonjour.
Anna, alors juste pour la petite histoire, hein, chers auditeurs, ça fait 5, 6, 7 fois qu'on a des rendez-vous manqués parce que nos agendas respectifs avaient du mal à synchroniser, il y avait toujours un truc, et donc ça me fait particulièrement plaisir qu'on puisse enfin se retrouver se retrouver là. Et puis ça me fait plaisir à plusieurs titres, parce que je l'ai dit, on va parler alors d'entreprise, de chef d'entreprise au féminin. Donc ça c'est un élément important. Et puis on va parler d'handicap, d'inclusion aussi. Voilà, autant de sujets qui me tiennent à cœur. Mais alors justement pour que tout le monde comprenne de quoi on parle, Anna, est-ce que tu veux bien en quelques mots te présenter?
Oui, bien sûr. Bah déjà, je te remercie de me donner la parole aujourd'hui. C'est vrai qu'on devait se parler avant les vacances. Finalement, on se parle après les vacances, ouais. Mais bon, j'en suis que plus contente et plus en forme. Donc, pour me présenter, moi, je suis je suis Anna. J'ai 47 ans. J'ai 3 enfants. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. On va dire que l'ADN chez mon père, son ADN se construit autour de l'entreprise. Pourtant, moi, je me sens pas du tout l'âme d'une chef d'entreprise jeune. Et puis, finalement, je fais des études classiques d'économie, de finance internationale. Et puis, je commence à travailler dans la banque. Et
ouais,
là,
t'es passée par Dauphine et Sciences Po quand même.
Oui, c'est ça.
Ouais, non, mais c'est pas des petites maisons. Autant le dire et en profiter.
Et puis, je commence à travailler dans la banque et ça me plaît pas du tout. Donc, finalement, j'en ressors aussi vite que j'y suis entrée.
C'est quoi qui te plaisait pas?
Ce qui me plaisait pas, c'est que, en fait, je trouvais que c'était technique. Je me sentais pas appartenir à un collectif, en fait. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je pense que l'intégration a été complètement manquée.
Puis c'est des grosses machines, hein.
Ouais, du coup, je me suis pas sentie intégrée. Et du coup, je me suis dit, non, mais moi, commencer ma carrière en faisant quelque chose qui ouais. me plaît pas, c'était pas possible, quoi.
Et on s'en était parlé un petit peu avant, on a eu la même expérience, c'est-à-dire que moi j'ai commencé au Crédit Lyonnais, pour ne pas les citer, et ouais. Voilà, au bout de 6 mois...
Bon, moi j'étais la BNP.
Ouais, mais voilà, je pense qu'il y a un truc quand même autour des grandes banques, où t'es fait pour ou pas, quoi. Hein.
Bon, manifestement, j'étais pas faite pour ça. Et puis, finalement, comme je disais, mon père entrepreneur, donc assez naturellement, finalement, je commence à travailler avec lui. Avec lui, pour un de ses associés, parce qu'ils étaient plusieurs, je n'ai jamais été rattachée directement, en fait. Et puis, bah, de fil en aiguille, finalement, je fais plutôt du commerce. Et puis, alors par contre, j'avais toujours été élevée dans l'idée que, bah, pour le coup, homme ou femme, créer sa boîte, c'était quand même de la liberté, etc.
Ouais.
Qu'il n'y avait pas de frein, enfin, le champ des possibles était ouvert.
Mon papa, il a été entrepreneur toute sa vie.
À partir de 35 ans.
Ouais, d'accord. Donc, t'as baigné dedans aussi toute ton enfance. T'as vécu ces histoires d'entrepreneurs un peu par procuration, mais tu les as vues le soir au dîner à la maison, quoi.
Ouais, c'est ça.
Enfin, quand il était dispo.
Ouais, mais il était quand même bon. Dispo plutôt le week-end que la semaine, mais il était quand même très présent. finalement, bah, moi, j'étais plutôt la bonne élève, on va dire, mais qui se posait pas trop de questions, qui aimait pas trop le risque. Et en plus, j'avais quand même dans l'idée que pour créer une boîte ou en tout cas être chef d'entreprise, il fallait avoir la super idée et être un peu le génie, quoi.
Ouais.
Donc, je me projetais pas forcément là-dedans. Et puis, finalement, en 2006, donc moi, je venais d'avoir mon troisième enfant, une fille, et puis, mon père vendait sa dernière entreprise.
Mmh.
Et il me dit, ben, j'ai rencontré un projet, c'est super, il faut qu'on reprenne ça ensemble. Et bah, c'était un pari complètement fou à l'époque parce que c'était Handicall, c'était à Bordeaux. Bon, nous on habite en Île-de-France.
Ouais.
Donc déjà je me dis bon, il a un peu une drôle d'idée. Et puis il me dit c'est du centre d'appel. Alors on était intégrateur de centre d'appel, donc on connaissait les prestataires de centre d'appel, mais c'est vrai qu'on l'humain dans le centre d'appel, c'était pas forcément notre truc, puis ça avait pas forcément bonne presse non plus en 2006.
Ouais, je sais pas si ça l'a toujours aujourd'hui, hein, même aujourd'hui. Hein.
Ouais, je sais pas si l'image est meilleure aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, il y avait des situations sans doute un peu plus dramatiques en 2006. Il me dit, ça fait travailler des personnes handicapées. Et là, je me dis, un peu, c'est le pompon, quoi, parce que il me propose une boîte à reprendre à Bordeaux. Alors, c'est une boîte qui était en redressement judiciaire aussi, je l'ai pas dit.
Oui,
ça n'arrange rien au contexte.
Donc, elle est pas sur ton lieu géographique. Elle est en redressement judiciaire.
Voilà.
Elle est sur un métier connexe, mais que vous maîtrisez pas complètement.
Exactement. On connaît rien au handicap. Et moi, j'ai un peu toutes les idées, reçu sur le handicap, que handicap égale moins performant, que handicap égale personne en fauteuil roulant. J'arrive...
Et puis, ton troisième enfant qui a un an.
Même pas, à ce moment-là, elle a 6 mois.
Ouais. Que tu sois un homme ou une femme, ça veut dire que ça a changé des choses dans ta vie, quoi. Hein.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et il me dit écoute, on y va et tu verras. Et on est allé. Déjà j'ai beaucoup d'idées reçues qui sont tombées quand on a franchi la porte de cette entreprise.
Ouais.
D'abord parce que j'ai vu que le handicap c'était pas des personnes en fauteuil roulant, que c'était des personnes qui étaient très souvent en reconversion professionnelle parce qu'elles pouvaient plus exercer leur métier précédent.
Ouais.
Ce sur quoi finalement on avait vraiment un enjeu c'était la professionnalisation et justement de valoriser les compétences de ces personnes.
Mmh.
En fournissant une prestation de qualité à nos clients qui allait faire que on allait réussir à redresser l'entreprise et puis c'est comme ça que ça.
Tu penses que ce qui fait que ça partait au tapis, c'était effectivement des problématiques de qualité?
Oui, clairement, je pense qu'il y avait un manque de clarté entre ce que le client attendait et ce qui était compris dans l'entreprise, quoi, pour produire le service.
D'accord.
Et ça, c'est quand même un peu la base pour aller satisfaire ses clients, c'est de bien comprendre quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs enjeux, et ensuite nous de les convertir finalement en service.
D'accord. Donc en gros, vous faites ce rendez-vous, tu découvres un certain nombre de choses. Tu te souviens ce que vous êtes dit en sortant du rendez-vous? Parce que vous y allez pas, le deal était pas fait. En gros, vous étiez en investigation.
Oui.
Voilà.
Oui, parce que de toute façon, on l'a repris à la barre de commerce ensuite. à la barre du tribunal de commerce. Ce que je me suis dit, en tout cas, enfin, ce que j'ai dit à mon père, c'est que oui, il y allait avoir du boulot si on voulait le faire, mais que je pense que ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup.
Donc, il y avait, tu voyais où les leviers, où il y avait des leviers que tu pouvais activer.
Oui, et enfin encore une fois, c'était aussi une des, enfin là quand on reprend quelque part, moi je viens aussi, je disais avec des fonctions plus commerciales, je viens pas forcément là dans une logique déjà de dirigeante, de stratégie, de, mais voilà, je ressens un certain nombre de choses et je me dis aussi que commercialement il va falloir y aller. Et en fait, d'ailleurs, je pense que c'est une des choses aussi qui a fait que ça n'a pas marché avant, c'est que les fondateurs qui avaient eu du coup une idée quand même un peu géniale, innovatrice à ce moment-là, de créer une entreprise adaptée, donc qui intègre des personnes en situation de handicap, mais dans les métiers de la relation client, qui sont des métiers quand même stratégiques, je dirais, pour les entreprises. En fait, pour eux, le mot commerce, c'était un gros mot, quoi. Il fallait, on était dans un domaine social, on pouvait pas parler de commerce, c'était pas possible. Et sauf que, ça finalement, dans la logique de ce que j'ai appris aussi après, et une des idées reçues contre lesquelles je me bats, c'est que on peut être justement une entreprise privée et avoir une mission sociale. Et quelque part, la stratégie de l'entreprise, elle se construit avec un peu avec les mêmes outils, on va dire. C'est pas parce qu'on est une entreprise adaptée, donc on a cet objectif d'intégration, de retour à l'emploi durable des personnes en situation de handicap, que pour autant on doit pas avoir une stratégie claire, des moyens définis,
vouloir dégager de la marge.
Voilà, des ambitions et des ambitions qui, alors peut-être que la différence chez nous, enfin en tout cas moi ce que je promeux, c'est vraiment l'idée d'une performance globale, quoi. Et de se dire que oui, on va aller chercher la performance économique, et quelque part on a mis du temps, ça, nous, hein, je sais pas, ça fait donc un peu plus d'une quinzaine d'années qu'on a repris en école. Je pense que ça fait 5-6 ans qu'on gagne de l'argent, parce que quelque part c'était pas un objectif qu'on osait, je pense, formaliser. Parce que oui, on a une entreprise qui intervient dans le domaine du handicap, etc. Sauf que, à un moment donné, si on veut avoir des ambitions fortes, il faut aussi qu'on puisse gagner de l'argent pour investir. Pour sauf que, au-delà de cette performance économique, on va aller chercher aussi de la performance sociale, de la performance opérationnelle. Et finalement, c'est la performance aussi dans la satisfaction des clients. Et c'est parce qu'on aura atteint ces différents type de performance, justement, qu'on sera sur quelque chose de global, que ça pourrait être durable. Moi, c'est vraiment ce que je pense.
Comment on rachète une boîte à la barre du tribunal de commerce? Ça se passe comment? Et comment, alors c'est pas forcément, tu me réponds, tu me réponds pas, hein, mais comment vous avez financé ça? Parce qu'en général, alors, on rachète pour pas grand-chose, mais derrière, on sait qu'il va falloir allonger un peu de cash.
C'est un peu ça l'histoire. Alors moi je savais pas faire ça du tout, hein, mais encore une fois, mon père était à côté de moi dans cette aventure.
Et il dit lui, d'ailleurs, c'était pour vous d'y aller à deux, ou lui en...
Ouais, je pense que, il m'a dit on le fait ensemble, mais clairement le ensemble, ça a été plus lui au départ, et encore une fois, on s'est jamais marché sur les pieds, lui du coup plutôt sur la finance justement, etc. Et moi plutôt sur le commerce, le marketing, les process. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la qualité. Je parlais de professionnaliser, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur les processus de l'entreprise, sur une certification ISO. Enfin voilà, un certain nombre de choses qui ont permis d'aller chercher de la performance organisationnelle et opérationnelle. Mais comment on reprend une entreprise? En fait, c'est simple, hein. Quand mon père a rencontré les fondateurs, qu'il a vu qu'ils étaient en redressement judiciaire, il a déposé un dossier. Je disais qu'en 2006, il vendait sa société, donc il avait créé une holding familiale, et en fait, on a mis au départ 50 000 euros. C'était pas phénoménal, hein, pour reprendre.
Il y a des boîtes qui se rachètent 1 euro, hein, donc de toute façon, c'est pas le prix que tu payes à ce moment-là qui est important, hein.
Ouais, c'est clair. Bon, rapidement, on a vu qu'il allait falloir quand même un peu plus de 50 000 euros pour faire ce qu'on avait à faire. Mais je pense que voilà, après, peut-être on a remis 200 000 euros, mais.
Dans mon souvenir, c'est le tribunal à qui tu soumets les dossiers.
Oui,
c'est ça.
C'est ça.
Et qui
en fait, on présente un projet. Bon, je pense qu'on n'était pas on n'était pas pléthore à se battre pour le dossier. Et puis, nous, ce qu'on voulait surtout, c'était pérenniser les emplois qui existaient.
Oui.
Il y en avait pas beaucoup à ce moment-là, mais il y avait 10-15 personnes en fait, hein. Ça faisait 300
000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, puis c'est garder la quintessence de ce qu'était cette boîte.
Exactement. Et garder l'ADN de cette boîte pour redresser et puis finalement développer ce qu'on a fait après.
Et donc alors là, les premiers jours, bah finalement tu prends une sacrée responsabilité quand même à ce moment-là. Enfin vous.
Ouais. Les premiers jours, en fait, on s'attaque un peu à tous les sujets, mais en premier lieu, rencontrer le client qui fait confiance à ce moment-là à Handicall, qui est le client historique d'Handicall, qui est toujours aujourd'hui un de nos partenaires privilégiés, CSFR.
Madame.
Voilà.
C'est pas mal, ça.
Ouais, alors c'était un des gros point fort effectivement en 2006 du dossier, c'est que SFR avait commencé à travailler avec Handicall 6 mois auparavant.
D'accord.
Donc il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient pour SFR. Aujourd'hui on en a un peu plus de 20 qui travaillent encore pour SFR. Ouais. Et finalement ça a été aussi en travaillant la qualité des prestations, travailler la recommandation. Nous on s'est beaucoup développé sur la recommandation de nos clients. Donc c'est des choses qui mettent du temps, mais qui font que vous démarrez des partenariats aussi avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Ça nous a permis peut-être de... On aurait peut-être pu aller plus vite, mais en fait, on a fait ce choix-là de consolider. Et puis, on avait sur le fond beaucoup de sujets aussi à adresser, comme je disais, sur les process, sur la qualité, sur... Et finalement, voilà, ça nous a permis de nous développer et de rapidement redresser la situation sur Bordeaux.
Et donc à ce moment-là, déjà t'as déménagé à ce moment-là alors ?
Non.
Non ? T'es resté ?
J'ai toujours au même endroit.
D'accord, ok.
Mais par contre, moi qui avais horreur de prendre l'avion, j'ai pris l'avion pas mal de fois.
T'es devenu gold platinum sur...
Ouais, c'est ça, je suis devenu gold chez Air France. maintenant je suis... VIP à la SNCF parce que on a basculé. On a basculé avec le TGV maintenant qui met 2 heures pour aller à Bordeaux, mais voilà, ouais, ça nécessite effectivement au départ d'être pas mal sur site, hein,
oui.
Pour comprendre les problématiques, pour rencontrer les gens, surtout les rassurer aussi et les impliquer dans un nouveau projet qui est notre projet, qui est pas le projet
Comment
du départ.
Tu fais ça? Parce que, bon, t'arrives, t'es le repreneur. Il y a un petit côté chevalier blanc, mais il y a un petit côté, on va se méfier parce que, on les connaît pas.
Ouais.
Est-ce que ce sont des prédateurs qui, vont nous revendre à la coupe? Alors là, il y a pas grand chose à couper, mais, il y a toujours ces deux tenants, on va dire.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au départ ça n'a pas forcément été très simple, d'autant que les fondateurs étaient restés un certain temps.
D'accord.
Et ça s'est éclairci quand ils sont partis. parce que comme ça, on parle d'une seule voix, les choses sont plus claires, et puis on parle directement aux personnes. Enfin,
c'est vous qui aviez souhaité qu'ils restent là un peu?
C'était dans le deal en fait, de départ. Sauf qu'après on a vu
c'était
qu'on
pas forcément
allait vraiment...
une bonne idée, quoi.
Que c'était pas une bonne idée, on parlait vraiment pas le même langage et que c'était pas une bonne idée.
Comment tu les embarques avec toi, ceux qui sont là?
Alors, mon père est très direct. Très direct, mais aussi très authentique. Donc, je pense que, voilà, quand il parle aux gens, les gens, ils ont eu confiance et finalement, ils ont adhéré. Et puis après, y a des choses, ça prend aussi un peu de temps. Je pense qu'il faut pas précipiter, il faut pas vouloir tout changer non plus. Et puis, rapidement, on a montré quand même qu'on s'engageait. On a déménagé, on est allé dans des locaux qui étaient plus agréables. On a fait des investissements en fait qui permettaient aussi de soutenir la professionnalisation.
Oui.
Et je pense que ça a rassuré. Puis ce qui a rassuré aussi, c'est de voir d'autres clients arriver.
Tu m'étonnes. Ça veut dire voilà. Du business qui rentre, donc du chiffre d'affaires, voilà. Enfin, tout va mieux, quoi. Hein.
Donc, je pense qu'il faut, il faut rien précipiter. Il faut parler clairement quand on a besoin de le faire. Et puis, finalement, la confiance, on la gagne comme ça.
Sur le terrain.
15 ans après, à Bordeaux, il y a quand même, moi, je ressens un climat particulier sur ce site. Il y a des gens qui étaient là il y a 15 ans. Et Bordeaux a vraiment une histoire particulière. Qu'on n'a pas sur les autres sites où ouais. On est parti de rien finalement, où on a créé. Là, il y a une histoire et c'est chouette quoi. C'est peut-être que l'histoire fait que les gens sont peut-être encore davantage dans le sens en fait du projet.
Alors à ce moment-là de l'histoire, finalement ton père est dirigeant de la boîte, toi t'es sur marketing, ouais. Vente, commercial.
Commerce, process, ouais.
Et à un moment ça va shifter, on va dire. Tu vas devenir la boss. Mais ouais. Avant ça, comment on fait pour pas s'engueuler avec son père?
Ouais, alors ça, j'ai pas forcément la réponse à ça, mais ce que je m'aperçois. C'est que j'ai une chance folle parce que je suis adhérente au CJD là depuis un an, ouais. Donc le centre des jeunes dirigeants, et du coup j'ai l'occasion d'échanger beaucoup avec d'autres dirigeants d'entreprise et beaucoup qui ont ou qui interviennent dans l'entreprise familiale. Et c'est souvent un truc, mais c'est Kafka, quoi.
Ah, ben oui.
Et moi, plusieurs fois, on m'a dit, mais Anna, tu devrais écrire un retour d'expérience ou un, parce que moi, avec mon père, on s'est jamais engueulé, mais vraiment.
Mais j'y crois pas une seule seconde.
Mais c'est vrai. Parce que, alors, je pense que déjà, quand on a repris Andico l'ensemble, il avait, c'était en 2006, il avait 62 ans.
Ouais.
Donc il avait plus rien à prouver, il aurait pu tranquillement, enfin officiellement il était retraité.
Ouais. Donc ouais, il avait réglé tous ses problèmes d'ego et autres joyeusetés.
Ah, mais c'est ce que j'allais dire, ouais. Il avait zéro problème d'ego et je pense qu'il était plutôt dans une logique de transmission en fait.
Ouais.
Tout simplement. Et mon père il m'a plutôt toujours soutenu, il m'a jamais dit non mais là ce que tu fais franchement c'est une mauvaise idée ou moi j'aurais pas fait comme ça quoi, le truc le pire quoi.
Ouais.
Non mais moi j'aurais pas fait comme ça. Non, il m'a jamais dit ça, au contraire il m'a toujours soutenu dans ce que j'ai fait et puis finalement on avait chacun notre précaré.
Oui, mais en même temps, tu étais la directrice commerciale. S'il y en a un sur qui on met la pression dans une boîte, c'est le directeur commercial. Et parce que derrière, c'est le chiffre d'affaires, etc., etc.
Il y a eu un
repas dominical où... Anna, là. On y va, là.
Non, mais en plus, c'est... Non, vraiment, hein. Vraiment, mais c'est vrai quoi. On s'est pas mis, comme je le disais aussi tout à l'heure, on s'est pas mis la pression sur la croissance. On s'est pas fixé un objectif où on s'est dit, on veut être à temps. On n'avait pas vraiment formalisé d'objectif stratégique à 5 ans. On n'était pas dans ça quoi. Je pense qu'au départ c'était redresser, comme je disais, développer. À notre rythme quoi, on s'est pas mis forcément la pression. Moi je me la suis plus mis depuis que j'ai repris finalement de manière effective le capital il y a 2 ans, parce que là je me suis dit mais en fait qu'est-ce que t'as envie de faire. J'ai regardé le contexte, etc., je me suis dit on est sur un marché qui est en croissance, on arrive à bien se développer, on intègre des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont en situation de handicap. La réalité, c'est que il y a encore 500 000 personnes inscrites au chômage en situation de handicap et moi, tout ce que je peux accélérer, je vais l'accélérer, quoi. Parce que j'ai envie de relever ce défi des personnes en situation de handicap, de l'emploi, des personnes en situation de handicap, le défi aussi du développement des compétences, de la valorisation des compétences. tout simplement, et de me dire, bah, pour ça, faut que je mette des moyens, et si on met des moyens, bah, il faut aussi en face qu'on fixe des objectifs, quoi.
Comment va se passer la transition? C'est-à-dire, comment tu vas devenir présidente? Parce que c'est votre projet.
Non, mais la transition, elle est faite. Mon père ne vient plus au bureau depuis un an. Bah, Covid oblige. Hein. Mmh. Voilà, il était dans les personnes dites à risque à 76 ans l'année dernière. Finalement, je disais qu'on avait repris aussi via une holding familiale dans laquelle il y avait mes frères et sœurs et mes parents. Et fin 2009, en fait, moi, j'ai repris cette holding familiale.
D'accord.
Donc quelque part c'était plus clair aussi sur le fait que ouais. Maintenant c'était pleinement moi aux commandes, quoi.
Complètement.
Et maintenant, si j'ai besoin de le solliciter, je le fais toujours. Hein.
Si j'ai puis oui, de et ce genre de profil, ça s'arrête voilà. Jamais de toute façon. Donc
voilà, c'est clair. C'est clair.
Et donc quoi, 2008, t'es in charge.
Fin 2009.
Fin 2009. Ok. Mm. Et là. Tu sais, la colle, j'essaie de creuser pour savoir les apprentissages, etc. Entre 2009 et maintenant, c'est quoi les trois trucs de chef d'entreprise que t'as appris, que t'as vécu et alors trois, je dis trois parce qu'il faut un chiffre. Hein, si t'en as quatre.
Ouais, non, mais moi, ce que je me dis déjà, mais je sais pas si c'est depuis 2009 ou, mais en tout cas, ce que je crois profondément, c'est que il y a aucune situation qu'on ne peut pas changer. Enfin, voilà, moi, je me dis, on peut toujours tout changer, se changer soi aussi. Mmh. Et à un moment donné, c'est savoir ce qu'on veut, c'est des étapes, des étapes dans la vie. Moi, je sais que j'ai envie de contribuer à une société qui soit plus inclusive. J'ai pris conscience aussi de l'importance de ce projet dans ma vie parce que ça m'a donné le sentiment d'être utile.
C'est loin d'être anodin. Hein.
Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, je me sentais pas au départ forcément l'esprit d'une chef d'entreprise, mais je crois que c'est la rencontre avec le projet en fait qui m'a fait ça. C'est qu'à un moment donné, je sais pas si je serais chef d'entreprise d'une autre boîte un jour, mais en tout cas là, ce qui fait que je le suis et sereinement et avec envie et ambition, c'est que le projet il correspond à mes valeurs. Et quelque part, je pense que c'est pour ça aussi que mon père il a eu envie de reprendre en 2006, c'est que ok, on connaissait rien au handicap. Par contre, bon, une boîte, il savait en gérer. Et puis là, il voyait un projet qui avait du sens, quoi, et des gens qui n'avaient pas eu la chance que lui a eu dans sa carrière. Moi, je pense que ce que ça m'a appris, et justement, c'est ce que j'ai envie de dire aussi aux gens qui nous font confiance à un moment donné dans le changement de leur parcours professionnel, c'est que ils ont vécu une situation. Souvent liés à leur handicap, qui fait qu'ils perdent leur job précédent. Quelque part ils nous font confiance pour changer cette situation-là et développer de nouvelles compétences et se positionner. Et ça, je pense que c'est super important parce que finalement, ça participe à changer le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Et nous, globalement, on essaie aussi de changer le regard sur le handicap parce que les collaborateurs qui sont chez Handicall, ils ont juste envie qu'on les regarde pour les compétences qu'ils ont, quoi. Alors, bien sûr, on les intègre dans la globalité de ce qu'est l'humain, et ça, je dirais qu'on soit en situation de handicap ou pas. Moi, je pense qu'en termes de management, c'est un peu la base. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on a fait, il nous est arrivé de faire des formations sur le management du handicap. Moi, je me dis, manager le handicap, c'est manager tout court, parce que c'est manager avec ce qu'est la personne dans son ensemble. Du coup, avec ses difficultés et ses points forts, quoi, tout simplement.
Mais c'est vrai, t'as complètement raison. Le principe de base, enfin, un de mes principes de base en termes de management, c'est l'écoute. Mmh. Et voilà, c'est Et c'est pas parce que quelqu'un est en situation de handicap que tu dois avoir une écoute plus active ou bien plus sûr. Attentionnée. C'est juste la même écoute.
Exactement.
Et après, juste éventuellement, les actions qui chaînent derrière, les aménagements qui chaînent derrière peuvent être un peu différents. Mais
exactement.
Mais t'as raison, c'est les compétences. Mais ça veut dire aussi quand même une chose, c'est que à toi perso, et c'est comme ça que je l'entends. Alors peut-être que, mais j'ai l'impression que tu te mets une sacrée pression sur cette responsabilité-là.
Je sais pas si je me mets une... franchement
il enfin, y a un sentiment quand même enfin tu vois c'est ça a rien d'anodin tout ça.
Bah en tout cas c'est pas anodin, mais c'est pas anodin parce que ça touche les personnes et on a fait d'ailleurs il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, une étude France Active Centre Val de Loire, qui est un de nos partenaires financiers de l'économie sociale et solidaire, nous a proposé une méthodo qui s'appelle VIS pour aller évaluer l'impact social. Et en fait, donc on a réalisé un diagnostic avec les parties prenantes, les salariés, le service public de l'emploi, et on a adressé un petit questionnaire à nos collaborateurs. On s'est posé la question suivante, c'est quel est l'impact sur la personne d'un retour durable à l'emploi ? Sur la personne en situation de handicap.
Okay, ouais.
Et en fait, les résultats de cette étude, c'est que 96% des gens qui rentrent chez nous en situation de handicap vivent mieux leur handicap avec ce retour à l'emploi.
Mmh.
Et que pour 8 personnes sur 10, on améliore leur vie. Donc, je veux dire, c'est quand même, effectivement, je me sens pas une pression phénoménale, mais je me dis que c'est quand même une responsabilité importante.
Ouais.
Et si on peut justement avoir cet impact positif, c'est pour ça aussi que j'ai envie d'accélérer, parce que je me dis cet impact il est majeur quoi pour la vie des gens en fait.
À ce jour, je vais juste sortir 2-3 chiffres. Tu me diras, tu me corriges s'ils sont faux ou si je suis en dessous, etc. etc. Mais c'est plus de 300 collaborateurs.
Oui.
En Nicole. C'est sur ces 300, c'est plus de 80% qui sont en situation de handicap. Donc vous êtes bien dans la mission, dans le nom, tout ça est aligné. C'est un chiffre que moi je trouve un peu hallucinant, mais c'est plus de 2,3 millions de contacts. C'est-à-dire que vous gérez plus de 2 millions d'appels téléphoniques.
D'interactions,
voilà. Avec ça a l'air de rien, hein, mais un petit chiffre d'affaires de 7 millions d'euros, en gros, en progression. Vous n'êtes pas une start-up, donc vous n'êtes pas à 150% de croissance, mais plutôt à 15% dans ces eaux-là.
On est même à 30% cette année.
Voilà.
Donc quand je dis qu'on accélère, ça accélère fort.
Tu disais, si j'ai bien noté, quand vous avez repris la boîte, vous étiez 20, c'est ça ?
10-15,
donc de 10-15 à 300...
Et 360 000 euros de chiffre d'affaires.
Donc on peut qualifier ça quand même plutôt de belle réussite.
Oui, c'est vrai que c'est une belle réussite.
Et puis tu as cité SFR, vous avez Harmonie Mutuelle aussi dans vos clients.
Oui, on travaille avec Total, avec le groupe BPCE, la Société Générale.
C'est pas avec Harmonie Mutuelle d'ailleurs que tu es allé faire un semi-marathon là ? C'est pas avec eux ?
Et si, Harmonie qui est sponsor officiel du semi-marathon de Paris et qui m'a fait relever ce défi.
Parce que alors vous ne voyez pas Anna, mais derrière Anna, elle qui est dans son bureau, il y a un dossard, voilà. Donc ça veut dire que le sport, la course pour toi, c'est un truc important ?
Ouais, alors pas depuis très longtemps. Hein. J'ai commencé à courir il y a 4 ans.
Ah ben ça donne de l'espoir à tout le monde, ça veut dire que...
Ouais, c'est possible.
C'est possible.
Je trouve ça chouette. C'est aussi relever des défis collectivement. Là, on a participé à ce semi, du coup, avec les équipes d'Harmonie, avec... j'avais mon responsable de Tours, Jean-Philippe Ansaldi, qui participait avec moi, et Grégory Mouillens, qui est un de nos collaborateurs de Bordeaux, qui est un ultramarathonien, quelqu'un qui est... il est hémiplégique, donc... Lui dépasse son handicap, mais à chaque fois qu'il fait une course.
Ben oui.
Et donc collectivement, c'est toujours fort dans les choses à partager.
Tu le disais cette année, les chiffres sont encore meilleurs. Ça veut dire que finalement, est-ce qu'il y a eu un impact Covid ou c'est autre chose ?
Non. Alors nous, c'est vrai que déjà l'année dernière, on a eu peu d'impact lié au Covid, puisqu'on s'est mis en télétravail très rapidement, et c'est vrai que pour ça, toutes les équipes se sont hyper mobilisées. Et alors, je crois qu'il y a plusieurs effets. Il y a peut-être un effet Covid, parce que quand on parle relation client à distance, c'est sûr que
le distanciel
est quand même plutôt plutôt à la mode. Mais je crois aussi qu'il y a des changements de fond sur justement la volonté de travailler avec des partenaires qui sont locaux, qui sont responsables. On parle beaucoup de RSE. Je crois que c'est
là aussi, t'es en plein dans la cible.
Voilà, c'est ça, c'est des valeurs finalement que nos clients recherchent aussi.
Complètement.
Dans notre offre qui est assez différenciante sur un marché qui est un marché avec des acteurs mondiaux. Mmh. Hein, donc nous, on est vraiment le tout petit, quoi. Mais différent.
Ouais, justement, différent. Mais dans cette logique de différence, enfin, vous avez des vrais atouts. Quand je dis vous êtes en plein dans la cible pour le RSE, c'est aujourd'hui une préoccupation pour toute entreprise qui se respecte. Ouais. Et travailler et sur des boucles locales et à des logiques d'inclusion. Enfin voilà, c'est heureusement, j'allais dire, le chemin que prennent la majorité des entreprises. Je relisais juste mes notes parce qu'il y a un chiffre quand même important. Enfin, moi, je trouve en tout cas important et symptomatique de ce que tu nous as décrit, c'est 1,6% de turnover en moyenne. C'est-à-dire que les gens qui sont chez toi, ils restent et ils sont plutôt contents a priori. En tout cas, à 98%.
C'est vrai que alors moi je fais des petits déjeuners avec tous les nouveaux ou des déjeuners ou des goûters, enfin en tout cas je privilégie un temps d'échange justement pour partager aussi sur ma vision, l'attente réciproque, parce que c'est il y a de la bienveillance, mais ça veut pas dire qu'il y a pas d'exigence. Enfin, j'attends dans nos valeurs il y a la performance, il y a l'engagement, il y a la responsabilité. Donc c'est aussi tout ça qui est important. Et donc je rencontrais des nouvelles conseillères à Bordeaux et m'ont fait rigoler parce que il y en avait une qui avait plus de 60 ans et qui me disait non mais moi de toute façon je resterai là jusqu'à la retraite. Et du coup, il y en a une qui fait écho, mais sauf qu'elle avait 35 ans ou 40 ans. Non, mais moi, c'est pareil, je veux jamais changer d'entreprise. Et ça me faisait sourire parce que je me suis dit, finalement, parce que ce qui serait quand même plus dans le sens des choses, c'est que justement, les personnes qui ont développé des compétences puissent aussi, à un moment donné, être intégrées dans des entreprises classiques, quoi. Mmh. Et que finalement, l'entreprise adaptée ne soit pas une fin dans le parcours professionnel, quoi. Je pense que c'est aussi
on est d'accord, mais s'ils sont bien chez toi.
Ah bah oui, non mais je m'en réjouis. Je m'en réjouis et c'est vrai que c'est un point où on n'est pas forcément d'accord avec l'évolution de la réglementation et l'évolution de la loi sur les entreprises adaptées qui a été votée fin 2008, qui met en place des expérimentations justement avec du CDD dit tremplin.
Ouais.
L'idée étant que les personnes rentrent dans l'entreprise adaptée mais en ressortent, mmh, pour intégrer une entreprise classique, un petit peu sur les modèles des entreprises d'insertion.
Oui.
Et c'est vrai que pour l'instant, nous, on n'y a pas été. On va commencer là l'expérimentation à Bordeaux, mais à la marge, sur quelques personnes, parce que je pense que effectivement, ne pas avoir de turnover, c'est aussi un des leviers pour délivrer un service de qualité à nos clients. Et finalement, plus on a de turnover, dans la mesure où la montée en compétences est assez longue sur nos métiers, plus c'est compliqué de maîtriser la qualité du service.
Peu de turnover, ça veut dire que effectivement, pour moi, c'est vraiment synonyme de qualité, d'expérience des gens avec lesquels tu travailles.
Exactement.
Etc. Comment alors, on l'a dit, vous avez commencé en rachetant Bordeaux, et puis derrière, vous avez ouvert trois autres centres. Il y a Chartres, il y a Lyon et il y a Tours. Ça s'est fait comment, ces histoires-là? Parce que c'est pas anodin, hein. Tu t'installes dans un autre, sur un autre site, etc. Il faut recruter, il faut trouver les clients qui vont avec.
Une fois qu'on a eu redressé Bordeaux, on avait eu un prix au ce qui était à ce moment-là le salon européen des centres d'appel.
D'accord.
Ça devait être en 2007-2008 et donc le patron de l'association Tourangelle de la relation client avait à ce moment-là dit mais pourquoi vous n'avez pas créé un centre à Tours.
Ouais.
Bon, nous, on voulait des centres à taille humaine, donc on voulait pas forcément grossir tout sur un même site à Bordeaux. Et on s'est dit, ben Tours, pourquoi pas. La plupart de nos clients sont parisiens. L'accessibilité depuis Paris, elle était excellente en TGV.
Bah, oui.
Gros bassin de relations clients, donc on avait à disposition pas mal de formations. Mais la condition sine qua non, c'était de rencontrer la directe à ce moment-là, la DRETS maintenant, oui, pour obtenir l'agrément. Puisque, étant une entreprise privée, on doit créer une structure juridique par site et obtenir un agrément d'entreprise adaptée par site, qui est délivré, en fait, via la directe, sous délégation du préfet, okay, de région. Et on a rencontré les équipes de la directe en région centre et là elles ont vraiment bien perçu notre projet qui était assez différenciant des autres entreprises adaptées du secteur qui en plus étaient touchées par la crise en 2009, la crise de l'automobile, beaucoup étaient sous-traitants de l'automobile.
D'accord.
Et donc elles ont vu plutôt d'un bon œil en fait le fait qu'une entreprise dans le domaine des services s'implante à Tours. Donc c'est comme ça qu'a démarré.
Mais t'avais le business qui allait avec, t'avais les clients qui allaient
c'est
avec.
C'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec Harmonie Mutuelle.
Eh ben
voilà,
oui,
les choses se sont faites en parallèle.
Oui.
Et du coup, ça a été notre première expérience de service client en juin 2009 à Tours quand on s'est implanté.
Ok. Donc ça, c'est
et
Tours.
Et dans la suite, Chartres, puisqu'on avait, en fait, on avait eu un projet de créer un centre en Île-de-France. Et là, par contre, on n'a pas obtenu l'agrément. On nous a
tu sais
dit,
pourquoi?
On nous a dit que notre projet n'avait rien de social, voilà.
Okay.
Donc, comme manifestement en région centre, il y avait plus de soutien, on s'est dit Chartres, c'est pas très loin de Paris finalement.
Okay. Attention, prochaine étape Orléans. Hein.
Ouais. Mais là, la région centre nous connaît bien. Et c'est comme ça qu'on a créé Chartres et ensuite on a ouvert Lyon parce que c'est pareil en termes d'accessibilité. Depuis Paris, on trouvait que c'était
ouais,
intéressant. Mmh. Et puis qu'on allait sans doute pouvoir avoir des clients locaux aussi, ce qui a été le cas à l'ouverture du site.
Et même tout ça, enfin, je reviens sur ma question, c'est tout ça, ça doit venir avec des clients, quoi. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que.
À chaque fois, c'est vraiment une démarche en parallèle. Alors, il faut pas qu'il y ait trop d'écart hein, entre le moment où on investit les locaux, où on recrute les gens, mais c'est aussi des choses qui prennent du temps hein, pour à Lyon pour s'implanter, ça n'a pas été simple hein, pour obtenir l'agrément on a mis 2 ans donc à un moment donné on avait les clients, on avait les gens mais on n'avait toujours pas l'agrément donc il faut mener tout ça en parallèle et puis qu'il y ait le moins d'écart possible.
Tu le disais avec Harmonie Mutuelle vous êtes allé vers la gestion de la relation client. C'est
oui,
ça.
Le service
c'est bien ce
client,
que j'ai compris.
Ouais,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous avez étendu le panel de vos activités au fur et à mesure.
Oui, en fait, c'est vrai qu'au départ, on était beaucoup sur de l'appel sortant.
Ouais.
Pour SFR, par exemple, on a longtemps fait la relance amiable d'impayé.
D'accord. Okay.
Voilà. Et ensuite, sauf que dans notre métier sur le métier de la relation client, c'est vrai que l'appel entrant est quand même prépondérant, mais aussi plus risqué pour le donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un prestataire, il faut assurer la continuité des activités. Il y a beaucoup plus d'enjeux et c'est aussi souvent des choses plus complexes avec plus de process, plus d'outils aussi à déployer chez nous.
Ouais.
Et c'est ce qu'Harmonie a été le premier à faire avec nous en 2009.
Et donc, chers auditeurs, si vous cherchez des solutions de standards externalisés, gestion de la relation client, marketing opérationnel, relance amiable d'impayé, enquête de satisfaction, voilà, vous savez à quelle porte taper. Alors ça c'est mon côté geek qui va parler sur les années qui viennent de passer. Il y a eu une évolution technologique du métier.
Oui, alors nous on venait de la brique technologique. Alors c'est vrai que c'était pas le truc compliqué à gérer pour nous.
Ça te faisait pas peur ça?
Non, ça nous faisait pas peur. Mais ce qu'on voit par contre, c'est que de plus en plus en fait nos clients donneurs d'ordre arrivent avec leurs outils. De moins en moins on utilise nos propres outils Et de plus en plus, voilà, ils nous livrent le panel et nous, on doit intégrer ces outils finalement dans notre architecture.
Ah ouais, ça veut dire que ça c'est peut-être l'avènement des solutions dites en SaaS, c'est-à-dire software
Exactement.
As a service. En gros, tu as un navigateur internet, tu peux te connecter
Exactement.
Sur le système d'information de ton client entre guillemets,
voilà.
Et faire
et
ce qu'il faut.
Et qui simplifie pas mal les choses aussi quand on est en télétravail parce que
ah bah tu m'étonnes.
Du coup, avec les problématiques de télétravail, ça a permis plus facilement de déporter.
Alors moi j'ai une image d'Épinal fausse. Je précise tout de suite, des centres d'appel, tu sais, avec les compteurs, etc. Grosse
oui,
pression, des floor managers, etc. C'est comment
on
n'a
jamais
on dit
eu de bandeau qui se met en alerte rouge.
Ouais, c'est
si
ça,
on n'est pas, voilà. Nous, nos managers, alors bien sûr qu'on pilote la performance, hein, heureusement, parce qu'on est aussi sur des activités externalisées où on doit rendre compte de l'activité à nos clients. Mais pour autant, cette performance, elle doit être équilibrée et être intégrée à notre modèle d'organisation aussi. C'est-à-dire
ouais.
que nous, on a défini des temps pour la formation, des temps pour les pauses, des temps pour les réunions, des temps d'accompagnement, parce que nos managers sont avant tout là pour justement accompagner au développement des compétences. Donc, nos propositions commerciales, en fait, intègrent des modèles économiques qui traduisent cette organisation,
ouais.
en fait.
Mmh.
Donc, bien sûr, on a les KPI, souvent, ils sont définis par les clients. Bon, après, c'est souvent des choses assez classiques dans nos métiers. Mais, en fait, notre client ne nous impose pas son organisation, je dirais.
Mmh.
L'organisation, elle nous est propre parce que on a aussi, justement, des personnes qui ont peut-être pas le profil des personnes qu'on retrouverait ailleurs et que pour nous l'organisation c'est aussi un moyen d'atteindre la performance mais aussi d'offrir une qualité de vie au travail à nos collaborateurs qui soit cohérente avec ce qu'on souhaite offrir.
Il y a alors c'est en filigrane au travers de toute cette conversation mais vous êtes une entreprise avec une véritable raison d'être dès le départ. Handicall est une entreprise à raison d'être. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez envisagé justement, alors loi Pacte et autres joyeusetés, je sais pas d'ailleurs si ça changerait grand chose pour vous, mais d'écrire cette raison d'être dans des statuts, d'être dans ces logiques-là.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé à expliciter, mais aujourd'hui, seule, effectivement, cette raison d'être qui traduit un peu la vision et ce qu'on a envie pour l'entreprise. Par contre, c'est marrant que tu parles de ça, parce que je disais que j'avais adhéré au CJD il y a un an, et dans le CJD, en fait, on a toujours des commissions de travail
ouais.
chaque année. Et quelle commission j'ai choisi cette année? C'est la commission entreprise à mission. Voilà. Parce que il me semble que ça fait complètement écho
bah oui.
À ce qu'on souhaite et je trouve que l'idée d'avoir un comité en fait de décision ou en tout cas de consultation dans l'entreprise à mission avec différentes parties prenantes à l'intérieur et pas forcément que du COMEX ou que du fonctionnel, je trouve que c'est des choses qui sont aussi intéressantes dans le pilotage de l'organisation et dans l'évolution, dans des choix, les impliquer aussi dans des choix stratégiques.
Alors, je vais juste faire un aparté, parce que ça me vient là, en ce moment, il faut que je le dise. Emery Jacquia, si tu nous écoutes, je pense que tu devrais parler avec Anna dans le cadre de la CAMIF. Emery Jacquia, c'est le PDG de la CAMIF. Entreprise à mission, s'il en est. Voilà, vraie stratégie autour de ça. Et justement, dans l'épisode sur lequel on échangeait, il parlait aussi, justement, il a fait créer un centre d'appel directement en local pour la CAMIF, etc. Mais voilà, Emery, je pense qu'avec Andy Cole, il y a un truc à faire. Parce que tout simplement, ça fait du sens. Je sais plus en quelle année, parce que je me le suis pas noté, mais il y a eu une année où tu as reçu le trophée des femmes de l'économie. Tu étais lauréate
oui,
femme chef
d'entreprise. C'était l'année dernière.
Ah, l'année dernière, voilà. Mm. Ça fait quoi?
Ça fait plaisir.
Ouais.
et en fait, c'est vrai que l'entrepreneuriat au féminin, c'est un sujet qui, enfin, que je trouve important. Et je trouve que ça renforce la légitimité, ça renforce, ça donne aussi un droit peut-être davantage à la parole, ou en tout cas à exprimer. Les femmes, finalement, chefs d'entreprise, s'expriment assez peu. Et donc, je trouve que c'est aussi une opportunité de le faire. Il se trouve que demain, je participe à
alors là, on est fin septembre. Hein. Juste pour ceux qui écoutent plus tard. Non, parce que.
Ouais, voilà. Ouais. Prix femme chef d'entreprise sur remis par France Active.
D'accord.
En fait, Centre Val de Loire. Et c'est le concours régional de l'entrepreneuriat au féminin. Moi, c'est un prix que j'ai obtenu lors de leur première édition en 2015.
D'accord.
Et pour moi, alors peut-être aussi parce que j'avais cette transition avec mon père, mais en 2015, quand on m'a remis ce prix, pour moi, c'était quelque part, c'est là que je suis vraiment devenue chef d'entreprise, quoi. Je trouve que c'est voilà, ouais. Il y a des choses, c'est des symboles,
c'est une forme de reconnaissance, hein, de ce
voilà.
que tu as fait et de qui
c'est,
tu es.
Ouais. Je trouve que c'est...
Si on a j'allais dire des jeunes femmes, mais non, pas forcément, des jeunes ou des vieilles, qui ont envie justement de se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait,
ouais.
T'aurais des conseils à donner, des trucs?
Ben, moi, le conseil à donner, ça serait peut-être celui de ne pas croire ce que moi j'ai cru au départ, c'est-à-dire que l'entrepreneur ou l'entrepreneur
ouais.
c'est le super-héros, quoi, qui a la super idée et voilà, qui va se lancer. Moi, j'ai été assez impressionnée par la théorie de l'effectuation.
Oui.
Et je trouve que ben, c'est plutôt ça, quoi. C'est à un moment donné, on analyse un contexte, il y a des opportunités à saisir, on accepte un risque voilà, modéré, hein. C'est pareil, on n'attend pas d'avoir 1 million d'euros pour se lancer, parce que ben, sinon la probabilité de se lancer, elle est quand même relativement faible.
Puis la probabilité d'avoir 1 million d'euros est somme toute assez faible aussi, donc...
Ben voilà, c'est pour ça que... donc, vaut mieux pas attendre de les avoir. Voilà, on y va. C'est vrai que moi j'avais eu la chance d'assister à une présentation de Philippe Zilbermann sur l'effectuation, et ça m'avait vraiment parlé, quoi, parce que je m'étais dit effectivement souvent en fait on est freiné encore une fois par des idées reçues, quoi.
Ouais.
Que et je pense qu'il faut voilà, il faut se lancer. Par contre, moi, ce que j'observe aussi, c'est que notamment dans les dossiers que j'ai vus sur le concours régional de l'entrepreneuriat au féminin, à un moment donné, il faut se lancer avec l'ambition d'en vivre, parce que on voit aussi des projets où ben, finalement le revenu, là, c'est de la dirigeante en l'occurrence, mmh. c'était des sujets d'entrepreneuriat au féminin.
C'est
néant, pas grand chose,
ouais.
quoi. C'est pas, pour moi, ça revient aussi sur ce que j'étais tout à l'heure, sur le fait qu'une entreprise, elle doit gagner de l'argent. Et elle doit gagner de l'argent, déjà, pour payer ses salariés et son patron, ou sa patronne. Parce que c'est la première des objectifs aussi économiques, quoi.
Mais je me note, il faut que je me trouve un prof ou un spécialiste de l'effectuation, de l'innovation frugale, etc., etc. Je mettrai 2-3 liens de bons bouquins sur ce sujet. C'est un.
Ouais, ben là, moi, je te disais, c'était Philippe Zilbermann, qui est prof à l'EM Lyon.
Ouais.
Qui a écrit un bouquin là-dessus, et dans le cadre du CJD, il nous avait fait une présentation, c'était vraiment top.
Bon, bah écoutez, j'essaierai d'en trouver...
Et finalement, tu me dis, c'est un peu comme la prose, quoi, on en fait sans savoir. Hein.
C'est clair.
Voilà, tout le temps.
C'est clair. Anna, on va arriver au bout, ça fait un petit moment qu'on parle ensemble. Tiens, je vais me mettre directement sur le site web. Donc, si vous voulez regarder ce que fait Andy Cole, c'est Andy Cole, HANDICA2L.fr. Voilà. Et ça vous donne tout ce que vous voulez. Si on veut te contacter, c'est quoi le mieux? C'est LinkedIn?
Bah,
Un
Oui,
mail?
LinkedIn ou un mail, je peux donner mon mail là,
Allez,
c'est
go.
a.leveque, L-E-V-E-Q-E, @andicole.fr.
Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont tenu les 52 minutes et qui sont encore
Ouais,
là,
ils ont gagné mon mail.
vous avez le mail de Anna. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu es prête? On va passer aux 7 dernières questions rituelles de la colle. Et puis, parce que,
Je
comme on
suis
s'est
prête.
loupé pas mal de fois, finalement, Anna, je suis sûr qu'elle a réussi à réfléchir très longtemps sur ces questions. Anna, dis-nous, quel est ton mot préféré?
Mon mot préféré, c'est engagement.
Ouais.
Parce que pour moi, je dirais presque que je ne fais rien sans être engagée. Et le problème pour les autres, c'est que j'attends la même chose en face.
Ouais. Il peut y avoir du
Voilà.
déceptif de temps en temps.
Voilà. Non, mais en tout cas, je pense que c'est important d'être porté et de pas faire les choses par hasard.
Mais est-ce que c'est pas alors ça c'est le vieux schnock qui parle. Est-ce que c'est pas un apprentissage qu'on fait justement au fur et à mesure des années où finalement l'engagement qu'on demande des autres on baisse un peu le curseur. Le sien est toujours très très haut, mais voilà, on sait raisonner sur l'engagement qu'on attend des autres.
Alors moi peut-être pas. En tout cas, après ça dépend sur quoi, hein, mais sur des, enfin sur l'humain, non, moi je crois que au contraire mon exigence
Ouais, ça je suis d'accord. Il y a des trucs non
elle
négociables.
augmente, voilà, elle augmente encore. Après oui le reste ça peut toujours s'arranger, mais sur les valeurs et l'humain, je crois que mon engagement il est plus
Ok.
fort.
Quel est le mot que tu détestes?
Mais
Ah, détesté par beaucoup d'entrepreneurs, tous les gens qui ont des idées, etc., à qui on dit ouais, mais.
ça, et je préfère le et
Ouais.
au mais.
Mais je pense justement, c'est vraiment le mindset des entrepreneurs. C'est quand tu présentes une idée, si tu as quelqu'un qui va, enfin, t'auras toujours les gens qui vont t'expliquer que c'est pas possible. T'auras
Voilà, c'est ça.
contre toi les gens qui veulent faire la même chose. T'auras contre toi les gens qui veulent rien faire, etc., etc. Enfin, il y a une phrase de Confucius comme ça là-dessus. Et tous ces gens sont les mais. Ouais, je suis d'accord. Alors que celui qui s'engage justement à la réflexion, au moins derrière toi, il va essayer de chercher les et. Parce que ah, mais si on rajoutait ça à ton idée, et
C'est
si on faisait
ça.
ça, et si on faisait ça,
Voilà.
mais ce serait génial. Voilà.
Parce qu'en fait, je trouve que souvent, on tue un peu
Dans l'œuf.
dans l'œuf, voilà, les idées. Et au contraire, la créativité, elle vient du fait d'être à plusieurs sur une idée. Mais effectivement, en essayant de l'enrichir, quoi, plutôt que de l'anéantir, c'est quand même un peu plus
Ouais, et puis il faut être
positif.
positif. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Le son ou le bruit que tu aimes?
Les cigales. Malheureusement, les vacances sont
C'est vrai,
finies.
tu me dis pas le téléphone qui sonne. Surtout pas, parce que ça, c'est le boulot.
Non. Bon, alors le mien sonne rarement parce qu'il est toujours sur vibreur, mais
Donc les cigales
Ouais.
pour le farniente. Le son ou le bruit que tu détestes?
Le klaxon.
Ouais, grand classique. Mais ça, c'est une perturbation de son, de sa bulle. Tu vois? C'est une intrusion, on va dire. Ton juron, gros mot ou blasphème favori?
Bon, je m'excuse par avance, mais c'est putain. Et je le dis un certain nombre de fois par
Ouais,
jour.
voilà, ça a le mérite d'être honnête, ça, au moins. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis, je sais plus qui le disait, mais dans les épisodes précédents, il y en a un qui disait, et ça m'est venu, ça peut être un putain déceptif, ça peut être, mais ça va être,
Ça
ça
peut être aussi, oh
C'est waouh,
putain, un truc,
putain, génial, tu vois? Ça peut être hyper positif comme gros mot. J'espère que tes enfants écouteront pas. Chut, voilà. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée.
alors, je l'ai entendu un peu avant l'été, quand à mon émission favorite, La Grande Librairie,
Ouais.
il y avait l'interview d'Edgar Morin, que j'ai trouvé, mais alors fantastique. Il est beau, il est encore curieux à 100 ans, enfin c'est juste dingue. Et il a dit une phrase qui moi me parle beaucoup, qui est « Je suis tout ce que j'ai rencontré ».
Après du Edgar Morin, faut toujours laisser un temps de silence.
Ah ok.
Non mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est Idriss Aberkane là dans le premier épisode de cette saison, pareil, cite Edgar Morin.
Ah, voilà. Oui.
Il y a vraiment des trucs autour de sa pensée et donc je suis tout ce que j'ai rencontré.
Tout ce que
ouais,
j'ai
non,
rencontré.
Mais enfin, je reste quoi parce que ouais. Ça me fait réfléchir.
Et je trouve que c'est voilà, enfin moi ça me parle vraiment voilà de toutes les personnes que j'ai rencontrées, que je rencontre. C'est, enfin, ça te nourrit quand même énormément. Et ça te fait changer aussi.
Non, mais j'abonde. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire?
Bon, alors là, je vais citer plutôt Axel Kahn.
Ouais, ok.
Parce que cette question, François Binel lui a posée.
Ouais.
Et il a répondu que j'ai été quelqu'un de bien. Et moi, j'aimerais aussi qu'il dise ça.
Ouais, ben on se connaît pas plus que ça, mais je sais pas en t'écoutant et puis alors pour les auditeurs, vous le voyez pas mais Anna elle a le sourire, elle a la pêche, elle a derrière elle un tableau où c'est écrit honorer ses promesses, savoir lâcher prise, savoir sortir de ses zones de confort. Enfin voilà, des messages hyper positifs. Avec en plus la mission autour dans Nicole que tu vis finalement tous les jours et que tu portes, bah ouais, je pense que t'as de bonnes chances qu'ils te disent ça, le bon Dieu. Hein.
J'espère.
Anna, oui. Alors ça participait de l'hypothèse première qui est voilà, s'il existe, Inch'Allah, et voilà, etc.
C'est ça.
Anna, il me reste à te remercier infiniment pour le temps que tu nous as consacré. On souhaite longue vie et encore un grand développement à Andy Cole. Je remets une couche à Emery Jacquia. Emery Jacquia, voilà. Tu sais qui tu dois appeler. Et puis voilà, un grand merci, Anna.
Merci beaucoup, Pierre. C'était très agréable, en tout cas.
Bye bye.
Bye.
Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.